des vies et des hommes.
Isabelle Rupin.
Si l'espoir de guérison est légitime, c'est la certitude du pardon qui est donnée à tous. C'était le thème de l'intervention donnée le 28 novembre dernier par le docteur Alessandro De Francisis, médecin du sanctuaire de Lourdes et invité par la section mayonnaise de l'hospitalité de Lourdes. Et quel bonheur, son programme chargé lui a laissé un petit peu de temps pour venir témoigner sur notre antenne. Docteur Alessandro De Francisis, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avance de ce témoignage.
Eh bien, merci à vous de votre hospitalité.
Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nos auditeurs peuvent le constater, vous êtes italien, mais vous parlez français comme si c'était votre langue maternelle.
Ah, mais c'est gentil, c'est pas vrai.
Et pas seulement français, je crois d'ailleurs. Mais ce n'est pas pour cela qu'on vous surnomme le docteur miracle. Si on retrace un petit peu votre vie, mais très rapidement, tout jeune, à 17 ans je crois, vous étiez engagé comme hospitalier à Lourdes et vous avez été confronté à la souffrance. À tel point que vous avez pu, comme beaucoup d'autres, en ressentir de la révolte. Je vous cite, « Ce sentiment de révolte ouvrait un chemin, faire face, suivre ma route en portant aussi le fardeau des autres. Ces enfants que je voyais, je pouvais apprendre à les soigner. Je pouvais les accompagner et les aimer aussi dans ma vie professionnelle. » Et la décision fut prise de me spécialiser en pédiatrie. Cette souffrance que vous avez constatée et cette révolte, vous l'avez utilisée au service des autres?
Oui. Ça, c'est un épisode qui est arrivé un peu plus tard. Donc, ce fut à Lourdes, effectivement, parce que j'arrive à Lourdes comme l'année avant mon bac, qu'on appelle en Italie licence de lycée. Je fais retour l'année suivante. C'était le moment des grands choix. Et effectivement, j'ai choisi d'être médecin parce que je voulais être utile et soigner les autres. Et je pensais être chirurgien. C'était à ma quatrième année à la faculté, qui est dans mon pèlerinage annuel au service des malades à Lourdes. Je fais cette expérience bouleversante aux piscines de Lourdes. Quelqu'un a dû dire, là, il y a une étudiante en médecine, donc je suis demandé d'aller servir dans la piscine des enfants, côté messieurs, évidemment. Et là, effectivement, j'ai vécu ce que vous dites. Ce fut une expérience dure. C'était l'expérience qu'après, j'apprendrai dans ma vie professionnelle et dans mes études de théologie et philosophie. C'est la question de toujours, la question de la douleur innocente et des innocents. C'est la question de la Shoah, c'est la question du pourquoi à moi et non plus à lui, et pourquoi à lui et non pas à moi. C'est la question qu'a posée Job dans le livre de Job. Et là, il faut dire que Notre-Dame m'a guidé, parce que cette vocation à être chirurgien s'est transformée dans la vocation à être pédiatre pour être effectivement capable de soigner avec compétence les enfants. Et ça, c'est le métier qui m'a accompagné toute ma vie, jusqu'à l'appel qui m'est arrivé en 2008, par l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, à l'époque Monseigneur Jacques Perrier, qui actuellement est à la retraite, il est l'émérite de Tarbes-et-Lourdes, il habite Limoges. Et Monseigneur Jacques Perrier m'invite, et ça m'a pris 3 ou 4 mois de discernement pour dire mon oui.
Il vous a invité, à être président du bureau des constatations médicales.
Tout à fait, une institution qui existe au sanctuaire depuis 1883, la plus ancienne institution d'aidant le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, car le fondateur, le docteur Duno de Saint-Maclou, fut deux ans après, l'un des premiers 7 fondateurs de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Donc c'est la plus ancienne institution. Et je voulais vous dire, parce que vous m'aviez présenté à nos auditeurs comme le docteur miracle, je refuse ce paroi. Vous voyez, aux amis qui m'écoutaient, nous les médecins, dans le monde entier, nous n'étudions pas les miracles. On n'étudie pas les miracles, il n'y a pas un chapitre miracle, il n'y a pas un paragraphe miracle, ni un examen miracle. Et nous, plutôt, on apprend en tant que médecin à la faculté et après dans le métier qu'on fait, on apprend plutôt à juger si quelqu'un est malade et donner un nom à cette maladie et éventuellement de juger si quelqu'un est guéri. Et c'est pour ça qu'à Lourdes, très sérieusement, je dirais, et c'est très très franco-français, parce que c'était le siècle de l'explosion de la scientificité dans la médecine, dans les grandes facultés de Paris notamment, et dans les grandes autres villes de France. C'est le cartésianisme qui est né effectivement en France, avec Cartésium. Donc voilà que l'évêque l'évêque de Tarbes décide d'abord dans la reconnaissance des apparitions et après avec l'institution d'un bureau de constatation de donner la primauté devant une guérison supposée, de donner la primauté au jugement du médecin plutôt que directement à celui de l'Église et donc des pasteurs. Et alors, je préfère plutôt qu'être appelé le docteur miracle, j'aime beaucoup dire que je suis le seul médecin vraiment inutile qui existe au monde. Car les médecins du monde entier, et moi-même jusqu'à il y a quelques temps, on est en quelque manière utile aux autres. Et
dans
moi, par
soin.
Contre,
vous
je suis le seul
soin.
Qui a la tâche officielle d'accueillir quelqu'un dans son bureau qui vient pour me dire « Docteur, bonjour, je suis guéri ».
Vous n'êtes quand même pas tout à fait inutile, puisque vous êtes là pour valider cette guérison et puis l'expliquer ou bien reconnaître que la médecine ne peut pas expliquer certaines guérisons. C'est bien ça le miracle, hein. C'est en fait une guérison inexpliquée.
Tout à fait. Alors le miracle, c'est autre chose. Le miracle, c'est l'acte de reconnaissance et d'interprétation de la part de l'évêque, de la personne guérie de manière inexpliquée pour les connaissances actuelles de notre médecine clinique et scientifique. Et là, effectivement, c'est effectivement notre travail, notre service, notre expertise à Monseigneur l'évêque de Tarbes et Lourdes en tant que gardien de la grotte des apparitions. Donc, le bureau de constatation était fondé en 1883 et bientôt, on assume comme méthode de travail les critères que l'Église universelle a assumés pour la congrégation romaine des causes des sangs pour juger une guérison éventuellement, potentiellement miraculeuse pour des cas de béatification et canonisation. Et les critères que nous suivons sont des critères rationnels, très très simples mais en même temps très rigoureux. Nous suivons, nous avons deux, et le médecin permanent que je suis, je l'ai toujours en tête quand quelqu'un, jusqu'avant la Covid, une centaine de personnes par an qui venaient me dire « Docteur, bonjour, je suis guéri ». Et quand j'écoute une histoire ou quand j'accueille une personne qui vient déclarer une guérison supposée, j'ai très clair ces critères dans ma tête et également mes confrères qui collaborent avec moi. Deux critères sont liés à la maladie, quatre à la guérison et après un critère général. Pour nous, cet impératif à Lourdes, et ça c'est depuis 1904-1905 sans doute, qu'on soit devant une maladie sûre et certaine. La personne était certainement malade et cette maladie a un nom. Deux, pour nous c'est impératif qu'il s'agisse donc d'une maladie qui avait un pronostic sévère, grave, une maladie grave. Quatre critères sont liés par contre à la guérison. Pour nous, c'est impératif à Lourdes que la guérison, et ça il faut le prouver, soit arrivée à manière inattendue ou soudaine, comme vous voulez, à manière instantanée, à manière complète et à manière durable dans le temps. Et finalement, c'est déjà les premières six que je viens de dire, et pour nous c'était également impératif, et c'est vraiment très, très compliqué évidemment, que la maladie soit guérie d'une manière qui reste inexpliquée à l'état de nos connaissances scientifiques. Je vous donne des exemples. La plus grande part en pourcentage de personnes, de catégories de maladies qui viennent m'être déclarées, là se close maintenant ma 13e saison en tant que médecin permanent à Lourdes depuis le 1er avril 2009. La plus grande catégorie de diagnostic, c'est le cancer. Eh bien, dans ces derniers 13 ans, aucune déclaration des guérisons supposées du cancer est devenue un dossier que nous suivons dans le temps. Pour la très simple raison du critère 7. C'est-à-dire, la personne qui vient me déclarer est quelqu'un ou quelqu'une que, et après le diagnostic, après quelques jours après la biopsie et le diagnostic, a commencé à faire ce qu'il faut faire.
Un traitement.
J'ai un traitement chirurgical avec l'ablation de la tumeur. Après, il commence une chimiothérapie, une radiothérapie, plus récemment de l'immunothérapie, et il fait ce qu'il faut. Comment défendre un jour, dans un débat scientifique, l'inexplicabilité d'une guérison qui était par contre traité selon le protocole que ce groupe avait choisi, des protocoles qui aujourd'hui d'ailleurs sont décidés, confirmés et validés au niveau international. Donc quelqu'un d'Afrique, quelqu'un d'Amérique, c'est le cas plutôt récent à moi, quelqu'un d'Europe, dans nos pays plus proches à Lourdes, si on suivit un protocole. Donc ce sont des gens avec lesquels j'ai toujours un regard très courtois, très compréhensif, très très joyeux. Je dis que je partage tout entière la joie de la guérison, du succès, dans laquelle je suis sûr que leur vie de foi, leur croyance religieuse, leur pratique religieuse, le soutien de la famille et de la communauté croyante a eu sans doute un impact. Mais je ne peux pas dire que là, il y a une guérison inexplicable, d'un côté. D'autre côté, j'ai, par contre, il m'arrive, c'était derrière ma première année, 2009, c'était le mois de juillet, et voilà qu'à ma porte, au bureau de constatation à Lourdes, frappe une femme plutôt mince et apparemment petite, et c'était la religieuse, la sœur Bernadette Moriot. Elle frappe à ma porte, accompagnée par un monsieur qui était son médecin traitant, le docteur Christophe Fumery. Bonjour, bonjour, enchanté, enchanté. Et la sœur, accompagnée par son médecin traitant, commence à me raconter une histoire qui est arrivée l'année précédente. L'année 2008, elle est venue en pèlerinage après un calvaire de 40 ans de souffrance, de douleurs engravissantes, après 14 ans d'usage des traitements tomorphiniques, après toutes sortes de possibles mécanismes et traitements antidouleurs, avec toutes sortes d'attelles et d'appareillages du corset rigide, après toutes sortes de souffrances neurologiques, avec l'incontinence de ses sphincters rectales et vésicales, après autosondage 4 ou 5 fois par jour, avec un diamètre de liberté de mouvement qui était réduit à moins d'un mètre. Dans ce cas dramatique, elle rentre du pèlerinage à Lourdes, à Brel, dans l'Oise, pas loin d'ici. Elle est finalement affolée de cet effort physique qu'elle a fait, mais en même temps réconfortée par l'expérience de foi et qu'elle avait vécue. Eh bien, trois jours après, seulement trois jours après sa rentrée, elle a finalement de la force de rejoindre sa sœur. Elle avait passé trois jours dans sa chambre. Et au troisième jour de sa rentrée de Lourdes en 2008, la sœur Bernadette rejoint ses sœurs qui sont dans l'heure d'adoration qu'il faisait ce jour-là. C'est à l'heure de l'adoration, c'était devant le très saint sacrement, dans la petite chapelle de la petite communauté des sœurs franciscaines dont elle appartient, que la sœur Moriot a vécu, c'est elle qui me parle, en 2009, elle a vécu le souvenir de ce qu'elle avait vécu à la même heure à la basilique souterraine de Lourdes lors du passage du Saint-Sacrement. Et elle avait entendu très clairement, non qu'elle allait guérir, mais que Jésus et Eucharistie le disaient et lui donnaient la force de soutenir sa maladie. Et c'est à ce moment qu'elle a vécu une expérience qu'elle dit d'être extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a comme un relâchement, une chaleur qu'elle apprend, une sensation inouïe de bien-être, et comme une voix intérieure qu'elle a dit, lève-toi tes appareils. Et rentre à sa petite chambre après ce moment d'adoration eucharistique. Et effectivement, elle démonte et le corset et la telle qui avait au pied gauche qui était déformée en équin depuis quelques ans. Elle a envie de faire pipi et faire pipi normalement. Elle arrête son neurostimulateur médulaire, qui est une sorte de pacemaker électrique qui a la moelle osseuse, qui stimule la moelle osseuse et qui augmente la supportabilité à la douleur. Voilà, elle ne prend pas le soir, elle ne prend plus de morphine et n'aura jamais aucun syndrome de sévrage. Et elle commence à pleurer, elle dit quelque chose est passé. Et le lendemain matin, elle me dit j'ai marché à la forêt 5 km. Vous voyez que dans une déclaration d'un cas de cancer, à une déclaration comme celle que je viens de dire très sommairement, il y a une différence énorme, c'est que j'écoutais cette histoire, j'ai regardé les quelques documents que le docteur Fumery m'avait déjà apportés ce jour-là, et je tiens dans ma tête les 7 critères. Je dis, mais là, peut-être, il y a un intérêt, et je demande la permission qu'elle me donnera par écrit de partager son histoire avec les autres soignantes. On a fait déjà deux jours après une réunion de bureau de constatation. Les soignants présents à Lourdes ont la main levée, voter pour ouvrir un dossier, suivre ce cas dans le temps. Donc, qu'il soit utile ou inutile ce travail, je ne sais pas, mais qu'il soit strictement médical, oui, je le défends et c'est pour ça que je n'aime pas trop être surnommé docteur miracle.
Bien, vous êtes quand même le docteur qui constate, hein, qui accueille ceux qui...
Les potentiels futurs miraculés.
Et ceux qui, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, sont guéris à Lourdes. Vous disiez, il y a une centaine de cas qui se présentent à vous.
Jusqu'à 2019, oui. Cette année, c'est effectivement une belle reprise du parrainage à Lourdes. Et nous attendons, je viens pour le dire à nos amis du diocèse et de l'hospitalité de la Mayenne, c'est effectivement repris le parrainage. Nous avons eu la chance en 2020... à aujourd'hui que j'enregistre cette interview avec vous, de n'avoir aucun cas, pas trois ou quatre, aucun cas d'hospitalisation avec symptômes de maladie Covid-19 dans les hôpitaux de Tarbes ou de Lourdes liés au pèlerinage à Lourdes.
Donc ça,
les mesures qu'on a prises au sanctuaire et les mesures que les pèlerinages ont prises pour venir en sécurité à Lourdes ont été effectivement formidables et on a vu le résultat.
Docteur Alessandro De Francisis, ça doit être assez compliqué quand vous accueillez donc ces personnes qui vous disent « je suis guéri, c'est un miracle » et de leur dire que ça ne peut pas forcément rentrer dans la catégorie des guérisons inexpliquées. Est-ce qu'ils ont de la déception ?
Pas du tout.
Non ?
Ce n'est pas compliqué du tout. Les médecins apprennent à dire la vérité à ses patients. Et moi, je dis aux gens ce que je veux dire. Je dis, écoutez, la Vierge va sans doute soutenue. Votre acte, et j'incite, s'il y a des auditeurs de cette émission à la radio, faites-le, s'il vous plaît. Vous pouvez m'écrire directement à bmedical@lourdes-france.com et me dire, écoutez, j'ai une histoire de guérison supposée que j'aimerais vous dire, que j'aimerais vous raconter. Mais les gens, si on explique qu'ils ont entendu là, d'une part, le soutien de la Vierge et de la prière et de la communauté croyante d'un côté et d'autre côté, la joie qu'ils sentent, c'est un acte de remerciement qu'ils font et c'est un acte d'encouragement à des autres malades. Je pense que ça, c'est très important que les gens s'entendent d'être compris dans cet univers absolument mystérieux qui est la maladie et que nous, médecins, nous avons le privilège d'accompagner, de connaître de proches. Donc je vous dis, c'est pas compliqué, je le fais régulièrement, mais j'embrasse.
Mais il n'y a pas de déception de la part de ces
personnes. C'est comme une accolade qu'on donne à la personne en la remerciant d'avoir partagé une histoire très belle avec le sanctuaire de Lourdes par le biais du docteur, du médecin qui est là.
Est-ce que vous avez quelques belles histoires qui ne seront pas forcément publiées puisqu'elles ne sont pas reconnues comme des miracles par l'Église, mais quelques belles histoires de guérison à nous raconter, des guérisons de cœur, de corps?
Mais je viens de vous raconter celle de la sœur Bernadette Morio, qui est un témoin exceptionnel.
Ah
oui, mais
c'est
un continu. Mais je pense que là, après, il faut éviter d'être, de devenir, de, comment je peux dire, je ne sais pas. Toute histoire. Demandez à un médecin de base, un médecin de famille, un médecin généraliste, demandez qui est le patient. Il vous dira que tous ces patients sont importants. Pour moi, toutes les histoires de guérison que j'accueille sont des histoires importantes. Parce que le fait même que la personne arrive à m'écrire ou à venir me rencontrer, ça signifie que là, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui pense que son amélioration partielle, sa guérison totale, est effectivement liée à un soutien qu'il a senti dans son pèlerinage à Lourdes, à l'emploi de l'eau de la grotte Lourdes que quelques amis aux parents lui a porté, un moment de prière de sa communauté paroissiale. Et donc, je trouve que ce n'est pas bon, c'est un peu de voyeurisme de dire la telle ou la telle autre. Je trouve que toutes histoires sont belles et je les ai effectivement eu le privilège de les écouter énormément. Les guérisons liées à notre croyance religieuse, je suis un catholique pratiquant, au-delà des critères que je viens de vous représenter, nous restons des croyants. Et je trouve que les miracles que Jésus a opérés sont des signes dont Jésus montre qu'il opère des guérisons, mais pour nous rappeler que lui est vraiment le Fils de Dieu et qu'il a le pouvoir de pardonner le péché. Donc, vous voyez cette dimension magnifique qui fait qu'en Église catholique, on a parmi les sept un sacrement qui est l'onction des malades. C'est-à-dire qu'il faut croire vraiment que notre Dieu Père et Fils Jésus-Christ sont tout-puissants et que la médiation de Marie, qui est reine sans doute et mère de l'Église et de Notre-Dame de Lourdes, est là pour accueillir les personnes malades, effectivement peuvent changer le parcours d'une histoire de maladie. Ça, je le vois avec mes yeux, ça, je le crois. Et sans l'entrer dans le détail de l'une ou de l'autre, comme vous m'aviez demandé, je peux assurer nos auditeurs qu'ils sont nombreux. Mais il faut les lire comme des signes. Et je trouve très beau que Monseigneur Benoît Gonen, le dernier évêque à avoir signé un mandement de reconnaissance de miracle, c'est en 2018 que l'évêque de Beauvais, qui a reconnu la guérison de la sœur Bernadette, inexpliquée pour nous médecins, être pour lui évêque miracle. Pour nous, à Lou, dans la liste, ça fait la 70e guérison miraculeuse. Mais l'évêque utilise dans son mandement un mot très beau. Il a dit, nous, en utilisant la formule, disons, solennelle du mandement, nous, lui l'évêque, nous reconnaissons la guérison de la sœur Bernadette Mario, la prodigieuse et miraculeuse, et nous y reconnaissons la valeur de Guillaumet, signe divin. Je pense que ça, pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, je suis un garçon de 66 ans, non, il faut que nous retournions avoir, comment je peux dire, l'esprit d'émerveillement devant la toute-puissance de Dieu. Et nous l'avons perdu. Et c'est ça qu'on discute en cathédrale dimanche, c'est-à-dire que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, a opéré et opère des signes comme c'était pour le paralysé de la naissance à Capernaum. Jésus, lorsque les quatre brancardiers ont forcé la toiture de la maison et l'ont fait descendre ce paralysé au pied de Jésus dans son brancard, Jésus ne lui a pas dit « tu es guéri ». Il lui a dit « ami, tes péchés sont pardonnés ». Et là, scribes et pharisiens, on dirait aujourd'hui les experts de religion qui toutes savent à propos de comment se déplacer, se tourner vers le dos, vers le chose, le latin, le signe précis et toutes les choses parfaites, on dit à quel titre cet homme se permet de pardonner les péchés, seulement Dieu peut le faire. Et Jésus qui a compris dans leur cœur cette mouvance, cet esprit, il dit, mais alors, mais pourquoi vous pensez ça dans vos cœurs? Dites-moi, quel est plus facile selon vous, pour moi, de dire à cet homme tes péchés sont pardonnés ou de lui dire lève-toi et marche? La ville entière savait, le village entier savait que cet homme n'avait jamais marché toute sa vie. Et bien alors, il se dit, il se tourne, Marc, Luc et Matthieu, donc la chose est dédain, toute la tradition des trois synoptiques, il se tourne vers cet homme qui est là à ses pieds, sous sa civière, et lui dit ami, et lui dit pour vous dire, donc, parce que vous puissiez comprendre que au Fils de l'homme, et il parle de soi-même, et donner le pouvoir de pardonner les péchés, je dis à cet homme, ami, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Donc je pense qu'il faut apprendre, à partir de nous, les croyants et les chrétiennes, il faut comprendre la beauté et la profondeur des guérisons liées à notre foi chrétienne, mais dans l'esprit à laquelle Jésus nous l'a présenté. Ils sont des signes. Ils sont des signes pour nous rappeler que lui est venu ici pour porter la miséricorde et le pardon de Dieu. Et que tout homme et toute femme dans le monde entier sont appelés à partager la joie du banquet, la joie de l'Eucharistie, la joie de l'appartenance en Église, la joie d'être pardonné. C'est ça le royaume de Dieu, je pense. Moi, j'ai fait la connaissance, je dis aux auditeurs, de mon intervieweur ce soir, il y a 10 minutes, 20 minutes, mais je sens que vous êtes ma sœur, j'espère que vous comprenez que je suis frère à vous dans notre foi chrétienne, et ce qui nous fait frères et sœurs, c'est le fait d'être pardonnés, et dans la richesse du baptême, d'être partie d'une même humanité. Les malades sont donc en premier rang. À Lourdes, comme j'ai dit, quelqu'un ami évêque a dit, Lourdes, c'est le monde à l'inverse. Parce qu'à Lourdes, là où ici on attend... avec réservation, il faut attendre 3 semaines, je ne sais pas quoi, pour des soins, pour des choses à l'hôpital. Mais alors, les personnes qui souffrent et sont malades sont à la première place. Et parmi eux, parmi elles, il y a certains qui vivent l'expérience de la guérison. Il faut suivre toujours les indications des médecins. Je suis pour dire, il faut toujours la direction du médecin traitant. Mais en sachant que dans le mystère de la prière et de la prière collective, c'est à Lourdes que la Vierge a demandé à Bernadette d'aller dire au prêtre, c'est la thème 2022 à Lourdes, d'aller dire au prêtre de venir ici en possession et d'y bâtir une chapelle. La chapelle a été bâtie. Nous attendons en 22 les processions parce que la prière faite ensemble, tout le monde, ça c'est la radio, mais tout le monde a vu les images à la télé du flambeau du soir, la procession au flambeau. Ces milliers de bougies qui se lèvent dans le ciel, cette prière très simple, c'est le chapelet, mais réciter, chanter à un millier, Eh bien, là, sans doute, ça meuve quelque chose, ça bouge quelque chose, et il y a des gens qui guérissent. Et ça, c'est la beauté et la richesse de Lourdes. Et c'est pas, il n'y a pas d'égal. Moi, j'étais attiré par ça à l'âge de 17 ans, 16 ans, vous l'avez dit, et je vous assure, ça arrive encore aujourd'hui. Je vous attends. Je vous attends à Lourdes ce prochain avril 22 avec le pèlerinage du diocèse.
Merci beaucoup, docteur Alessandro De Francisis, de cette invitation. Alors, peut-être qu'on ne vous y croisera pas forcément parce que tout le monde n'a pas l'occasion d'aller au bureau des constatations médicales et rencontrer le médecin.
Je suis là, je suis
sanctuaire,
présent.
Mais voilà, vous êtes quand même présent. Et puis, c'est vrai que nos auditeurs, beaucoup sont très attirés par Lourdes. Et il y a ce pèlerinage du mois d'avril, mais il y a d'autres pèlerinages également de la Mayenne qui partent vers Lourdes, puisque c'est vraiment un lieu qui nous est cher. Donc, merci beaucoup d'être venu nous en parler, docteur Alessandro De Francisis.
Et merci à vous. Et à tout le monde, parce que je parie que ça sera retransmis à la période de Noël. Ben bon Noël et voilà. Heureux et voilà dans les familles et surtout aux personnes malades qui m'ont écouté. Soyez joyeux dans le cœur. Jésus vous aime et la Vierge Marie vous aime.
Merci beaucoup, docteur.